les jardinières.
Ce matin, les jardinières sortent du potager et vous emmènent en forêt. Durant une heure, nous parlerons champignons. Bonjour Raphaël. Et je n'ai pas ouvert le bon bouton. Bonjour Raphaël.
Bonjour Mylène,
comme
bonjour
ça,
tout le monde.
Partout. Et qui de mieux pour parler de champignons qu'une contrôleuse de champignons? Bonjour Gaëlle.
Bonjour.
Gaëlle Mona, vous êtes contrôleuse de champignons dans le canton de Neuchâtel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans cette émission spéciale champignons, nous irons en forêt. Nous parlerons des espèces de champignons suisses, de morilles bien sûr, et de champignons à faire pousser chez soi.
Vous l'avez donc compris, vous préparez vos couteaux et vos paniers, les jardinières vous emmène en forêt jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Et pour démarrer cette émission spéciale champignons, Gaëlle, dites-nous, c'est quoi un champignon? Parce que contrairement aux idées reçues, un champignon, c'est pas seulement un pied et un chapeau.
Non, alors un champignon, en fait, c'est un peu à l'intersection entre un végétal et un animal, et même que génétiquement, ils sont plus proches des animaux que des végétaux. Donc c'est un organisme, on dit eucaryote, c'est-à-dire qu'il a une cellule avec un noyau à l'intérieur. C'est un organisme, on dit aussi hétérotrophe, ça veut dire qu'il a besoin d'une source de carbone pour se nourrir, comme nous en fait, il a besoin de manger. Ensuite, on dit qu'il a une paroi cellulaire, un peu comme les végétaux, sauf que la paroi du champignon, elle est en chitine, comme l'exosquelette des insectes. Ensuite, le champignon, ben, on dit qu'il se reproduit avec des spores. Donc, ce n'est pas le sac de sport pour aller au sport, hein, on est d'accord. Hein, c'est comme une petite graine de champignon qui est très légère et qui est capable de s'envoler en fait, et d'aller coloniser un nouveau milieu. Et on dit aussi que c'est un organisme modulaire. Ça veut dire que si on prend une petite partie de champignon puis qu'on le met en culture quelque part, il pourra pousser. Donc c'est comme nous, si on nous coupe un bout de bois puis qu'on nous le plante quelque part,
ben,
nous on
ne
va pas pousser.
Hein.
Voilà, nous on ne va pas pousser, mais le champignon il est capable de pousser ailleurs.
Merci beaucoup Gaëlle, vous êtes notre contrôleuse de champignons et vous êtes là pour nous ce matin, mais aussi pour répondre aux questions de nos auditeurs sur des questions de champignons, évidemment, puisqu'on va en profiter jusqu'à 8h. Vous avez trois possibilités pour nous contacter, vous pouvez le faire par téléphone en tout temps au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez également le faire par SMS, vous tapez jardin un espace suivi de votre question, vous nous l'envoyez au 939 ou par le formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émission questions jardinières. Vous pouvez y joindre une photo, mais attention, Gaëlle ne contrôlera pas si c'est un champignon mangeable ou pas, parce que sinon on ne va pas s'en sortir.
Dans quelques minutes, nous vous emmènerons en balade, en forêt, et tout ça en compagnie de Gaëlle, bien sûr.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, les jardinières vous emmènent en forêt à la recherche de champignons.
Exactement. Et Mylène, vous avez suivi Gaëlle sur les hauteurs de la ville de Neuchâtel. Mais qu'est-ce qu'on trouve? Est-ce qu'on trouve des champignons dans la forêt maintenant?
Alors, il y a toujours les champignons qui arrivent à vivre toute l'année. Simplement, quand il y a les températures qui commencent à être positives, ils vont continuer à se développer. Quand c'est négatif, ben, ils vont stopper leur croissance. Donc des champignons, on en voit toute l'année. Après, les comestibles, en hiver, c'est clair qu'il y en a très peu, mais il y en a. En hiver, on peut aussi trouver la pleurote en forme d'huître. Et on peut trouver aussi la flamuline à pied velu aussi, en hiver. Et au début du printemps, c'est avril, c'est un peu plus tard, mais il y a le tricholome de la Saint-Georges, qui est un excellent comestible, qui pousse souvent, ben, au mois d'avril, à la Saint-Georges, qui est le 23 avril. On est surpris, mais on regarde le bois, puis on se dit, bah, tiens, il est bizarre ce bois, il a l'air tout noir. Bah, tout ce qui est noir, c'est du champignon, en fait. Là, on voit, en fait, le champignon, il attaque l'écorce, et puis il est en train de noircir. Et puis, en fait, à la surface, il fait toutes ses spores, et c'est pour ça que ça devient noir. Donc, c'est tout, il est vraiment en train d'envahir le bois par-dessus, celui-là.
Est-ce que ça peut nourrir, pas un humain, mais est-ce que certains animaux mangent ça?
Très bonne question. Je ne pense pas que ceux-là, ils vont forcément les manger. Par contre, l'importance de ces champignons, c'est qu'ils vont en fait, commencer d'attaquer le bois, ce qui pourra en fait, laisser la porte ouverte à d'autres communautés, comme des bactéries ou des insectes, qui vont pouvoir continuer à s'attaquer au bois. On voit sur le bois, en fait, il y a vraiment des zones qui sont plus claires, des zones qui sont plus foncées, et puis il y a vraiment une zone noire. Et bien, en fait, c'est des délimitations entre les différents champignons. Ils se font en fait, des guerres de tranchées. En fait, ils s'isolent avec une couche de mélanine, et puis en fait pour délimiter leur territoire, leur zone à manger, puis comme ça l'autre il peut pas venir dans son territoire.
Donc il y a une guerre des champignons?
Oui, dans un tronc de bois comme ça qu'on voit par terre, oui, il y a une guerre de champignons.
Gaëlle, quand vous vous promenez comme ça en forêt, du coup vous regardez que par terre?
Oui, j'ai beaucoup le nez par terre, effectivement. Mais après, tout d'un coup, je regarde en l'air quand j'entends un oiseau, parce que j'essaye de voir où il est. Mais effectivement, je suis souvent le nez par terre à regarder, parce qu'il y a tellement de choses à voir que je trouve vraiment... Enfin, j'adore, quoi. Bah, en fait, au fur et à mesure qu'on les découvre, on a l'œil qui se fait. Hein, c'est comme dans n'importe quel travail. À force de le faire, on a l'habitude. Et puis, c'est vrai que moi, je regarde... Je balaye en fait le sol. Puis ce qu'il faut surtout faire, c'est aller gentiment. Parce que si on va trop vite, ben on va passer à côté des champignons. Tandis que si on y va vraiment tranquillement, ben c'est bien parce que, un, on prend le temps pour soi, deux, on prend le temps de regarder. Et puis c'est bon pour le cœur, c'est bon pour la santé.
C'est de la mousse, c'est ça, pas un champignon.
Oui, ça, c'est effectivement, ça, c'est de la mousse. Alors, on reconnaît la mousse des lichens. Donc, les lichens, c'est un demi-champignon. C'est souvent ce qu'on trouve qui est un peu orangé, un peu grisâtre sur les arbres, sur les cailloux. Donc, ça, c'est un demi-champignon. C'est une symbiose entre un champignon et une algue ou une bactérie. Le champignon, il va lui donner l'abri. Et puis, l'algue, il va lui faire la photosynthèse pour justement lui donner ses sucres. Donc, en fait, c'est un échange entre les deux. Et puis, les mousses, on les reconnaît parce qu'elles sont justement vertes et du coup elles produisent de la photosynthèse alors que les lichens sont rarement d'une couleur si vert intense.
Il existe combien de variétés de champignons là dans le Jura ?
Ah, la question. Moi je dirais qu'il existe je pense à peu près 2000 à 3000 espèces de champignons en Suisse.
Et vous en connaissez combien ?
Beaucoup, je peux pas vous dire mais je pense entre peut-être 500.
On se retrouve après une pause musicale et on va
beaucoup
justement...
Beaucoup 500 hein, quand même. Hein.
Ouais, c'est beaucoup. Puis en plus, Gaëlle, elle en connaît beaucoup. Hein. Elle dit les noms comme ça.
Ouais, c'est vrai.
Vous promenez en forêt avec elle, elle vous sort des noms. Comment il s'appelle ce champignon-là qu'on a pris en photo ?
Le Fomitopsis pinicola.
Voilà.
C'est dit.
On va parler des espèces de champignons suisses dans un instant.
Et puis on vous rappelle que ce matin, vous l'avez compris, Les Jardinières vous offrent une émission spéciale champignons. Vous n'hésitez pas à poser vos questions à notre invitée Gaëlle Monnat, qui est contrôleuse en champignons.
7h, 8h, Les Jardinières.
Ce matin, Les Jardinières vous parlent de champignons. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Gaëlle Monnat, contrôleuse de champignons. Gaëlle, quand on parle de champignons, ben on pense souvent aux bolets, aux morilles, aux chanterelles, voire aux amanites, des champignons qu'on trouve chez nous. Alors en Suisse, il existe combien d'espèces différentes, comestibles ou pas comestibles ?
Alors attention, vous êtes prêts ? J'ai fait des recherches hein, cette fois. Donc on est à 10 000 espèces de champignons décrites en Suisse. Ah. On estime à 20 000 espèces qui pourraient encore, donc encore 10 000 encore à découvrir.
Il y en a une qu'on ne connaîtrait pas aujourd'hui.
Oui, exactement. Il y en a une douzaine par année qui sont découvertes. Par contre, parmi tout ça, il n'y en a que 200 qui sont comestibles. 300, allez, 300. Ou sinon, la plupart, elles sont non comestibles. Et parmi toutes ces 10 000 espèces, il y en a à peu près 200 qui sont considérées comme toxiques.
Et on va se poser la question, alors on a peut-être une petite idée, parce que Mylène en a énuméré quelques-uns, mais c'est laquelle d'espèces qui est la plus répandue dans nos forêts, comestibles ou non comestibles ?
Alors moi, je pense qu'on ne va pas parler d'espèces, mais on va parler plutôt de groupes. Et puis, c'est tout ce qu'on dit les champignons aphylophorales, où ça profite. C'est des champignons qui poussent sur le bois, justement, parce qu'ils sont là toute l'année. Ils sont, enfin, en tout cas, visibles toute l'année. Parce qu'après, les champignons, ils sont souvent dans le sol, donc on ne les voit pas. Mais les champignons qui sont le plus répandus, justement, c'est tous ces champignons qui dégradent le bois.
Même si la Suisse n'est pas le plus vaste des pays, Gaëlle, est-ce qu'on trouve les mêmes espèces dans le Jura ou au Tessin, par exemple ?
Alors non, parce que ce n'est pas les mêmes conditions. Typiquement, le Tessin, c'est un canton qui est chaud, donc on va plutôt trouver des champignons type, on va dire, méditerranéen. Alors que dans le Jura, c'est plutôt un climat un peu plus tempéré, donc on aura d'autres espèces.
Il y a certaines plantes qui arrivent en Suisse et qui ne sont pas indigènes. Est-ce qu'on peut trouver des espèces de champignons qui sont arrivées par hasard chez nous ?
Alors oui, effectivement. Et puis j'ai une belle anecdote, elle a bien plu à Mylène quand j'y racontais. C'est qu'il y a un champignon justement, l'Anthurus d'Archer, qui est un champignon, en fait, il sort d'un œuf, puis on dirait une pieuvre avec des tentacules qui sortent, il est rouge. Et en fait, ce champignon, il vient d'Australie et il est arrivé en Europe, notamment en France, dans les années 40-50. Et on suppose qu'il a été... Enfin, il y a deux histoires pour dire pourquoi il est arrivé en Suisse, enfin en Suisse, en Europe déjà. C'est à cause des sols soldats qui venaient d'Australie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis on dit que leur semelle contenait des spores, puis ils les ont dispersés quand ils sont arrivés. Et la deuxième histoire qui est dite, c'est qu'il y a eu beaucoup d'importations de laine qui venait justement d'Australie. Et puis on suppose peut-être qu'il y avait des spores dans ces lots de laine. Et puis le champignon, en fait, il a trouvé des bonnes conditions chez nous, puis il a commencé de petit à petit de se répartir en Europe. Et puis maintenant, il est en Suisse, il est notamment dans le canton de Genève.
Est-ce que c'est dangereux que des champignons arrivent d'autres pays chez nous comme ça ?
Alors, le côté invasif, j'ai pas d'histoire comme ça. Peut-être plutôt dans les champignons phytopathogènes, donc qui s'attaquent aux plantes, où justement ils peuvent s'attaquer à des arbres qui sont chez nous, qui sont faibles. La maladie du frêne, qui est due à un champignon qui justement dégrade les frênes. Je crois aussi l'orme. Et puis du coup, c'est vrai que ça peut plutôt s'attaquer. Enfin, c'est plutôt des champignons phytopathogènes, donc qui s'attaquent aux plantes.
Nous sommes mi-février, Gaëlle, est-ce qu'on peut ramasser en forêt comme champignons comestibles actuellement ?
Alors, actuellement, on a justement la flammuline à pied velu, qui est un champignon comestible qui pousse en hiver. On a aussi, on peut trouver, on va dire, fin d'automne et début de printemps, quand les températures commencent à être positives, la pleurote en forme d'huître, qui sont des champignons qui poussent souvent quand il fait plutôt froid. Et puis bon, c'est quand les températures seront positives la nuit, il faudra commencer d'aller aux morilles, hein, parce qu'elles vont commencer.
On se réjouit. Merci Gaëlle. Des champignons, on en trouve partout. Mais à quoi servent-ils ? Eh bien, la réponse, ça sera dans quelques minutes.
Les jardinières.
Le samedi matin, les jardinières vous emmènent au potager, mais ce matin, on vous balade en forêt et nous parlons de champignons. Nous sommes en compagnie de Gaëlle Mona, contrôleuse de champignons dans le canton de Neuchâtel.
Et Gaëlle attend avec impatience vos questions sur les champignons, et ça jusqu'à 8h. Vous pouvez le faire pour nous atteindre et vous pouvez nous appeler par téléphone au 0 901 70 20 20, c'est pour 36 centimes la minute. Vous pouvez le faire par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question, vous nous envoyez ce SMS au 939 ou par le formulaire internet disponible sur la page des jardinières sur notre site, avec la possibilité de joindre une photo.
Alors Gaëlle, des champignons, on en trouve absolument partout, sur le sol, dans la terre, sur les arbres, sur les bois morts, sur un vieux yogourt. Mais à quoi servent-ils ces champignons ?
En fait, leur principal rôle, on va dire, dans notre écosystème, sur notre terre, c'est de recycler la matière organique. Donc, ils se nourrissent de matière organique et puis, du coup, ils redonnent en fait les sels minéraux aux plantes pour qu'elles puissent continuer à prospérer. Et en fait, les champignons, ils dégradent 90% de la biomasse végétale. Donc c'est vraiment le plus gros recycleur. Après les autres 10%, il y a des insectes et puis il y a aussi des bactéries.
Est-ce que tous les champignons ont le même mode de vie ? Quand je dis ça, on pense forcément à la symbiose, aux parasites.
Alors, c'est déjà les deux modes de vie principaux que vous avez dit. Donc, en gros, le champignon, il a trois modes de vie. Soit il est saprophyte, c'est-à-dire qu'il dégrade justement la matière organique. C'est à peu près 50% des champignons qui font ça. Après, il y a des champignons aussi qui peuvent être, on dit, mutualistes, c'est-à-dire qui vivent avec un autre organisme, comme justement la symbiose. On trouve les lichens, qu'on a parlé en balade en forêt. Et on a aussi la symbiose avec les arbres, c'est-à-dire 90% des arbres, ils sont en symbiose avec un champignon, c'est-à-dire que la racine, elle est en contact avec le mycélium du champignon. Donc le mycélium, c'est la partie souterraine du champignon. Et puis le champignon, il donne l'eau, les sels minéraux, et la plante, elle y donne les sucres grâce à sa photosynthèse. Et le dernier mode de vie, c'est parasite, c'est-à-dire qu'il y a des champignons qui attaque aux êtres vivants, c'est-à-dire ça peut être nous, quand on a une mycose, ça peut être aussi des insectes, où il y a des champignons qui tuent carrément les insectes et s'en nourrissent, et puis il y a les champignons phytopathogènes, c'est-à-dire qui s'attaquent aux plantes, et il y a même des champignons mycoparasites, donc il y a des champignons qui mangent d'autres champignons.
Quand on parlait tout à l'heure de la guerre des champignons, ça rejoint ça en fait.
Exactement. Oui.
Et si certaines espèces de champignons venait à disparaître, Gaëlle, est-ce que cela entraînerait aussi la disparition d'autres végétaux ?
Alors, on va plutôt parler inverse, en fait. C'est-à-dire que c'est souvent la disparition du végétal, de l'arbre, de la plante, qui fait que le champignon ne trouve plus de quoi se reproduire. Et puis, du coup, il peut mourir. Donc, le gros problème, c'est justement la destruction des habitats, donc des arbres, des milieux, des écosystèmes, qui va engendrer la perte de champignons.
Merci Gaëlle. Entre-temps, on va faire une petite pause sur les questions écosystèmes parce que Raphaël, vous êtes avec quelqu'un au téléphone, si je ne me trompe pas.
Exactement. Oui. Marianne qui nous a contacté. Bonjour Marianne. Et vous m'avez dit hors antenne que vous aviez une information sur les champignons comme ça.
Oui, quelque chose de génial. J'étais petite encore, ça fait des années 50. Hein. Mon papa, il était un féru de champignons. Et toujours, au janvier-février, il allait dans la forêt, au signal de bougie, et trouvait des marjolus. Les marjolus. Oui. Ces champignons, il trouvait sous la neige. Vous voyez, Marjolus.
Oui, tout à fait. Oui, c'est l'hygrophore de Mars qu'on appelle aussi.
Voilà.
Et c'est un champignon, effectivement, je l'ai oublié, mais qui pousse effectivement dès les prémices du printemps sous la neige. Il peut commencer sous la neige, effectivement.
Oui, je me souviens tellement. Ils nous ont ramené ces champignons magnifiques, là. Évidemment, très bons. Hein. Alors, c'était les premiers qu'ils trouvaient de l'année. Ils étaient tout fiers de nous les apporter.
Oui, tout à fait. Ils sont très bons, mais c'est vrai qu'ils sont très difficiles à trouver. Ils ne sont pas courants dans nos forêts.
Oui, souvent. Mon père, il connaissait tous les endroits. Vous savez, il allait au Mori, Enfin, c'était vraiment un spécialiste. Alors, j'ai des souvenirs merveilleux. Alors, en entendant parler des champignons ce matin, j'ai dit... Alors vraiment, j'ai eu une belle pensée pour mon papa.
Eh bien écoutez, ça nous fait plaisir que ça vous rappelle des bons souvenirs d'enfance, Marianne. Et en tout cas, on vous remercie pour ce partage et puis ce petit moment d'émotion.
Mais je vous en prie, merci beaucoup. Salut à tous. Hein, bonne journée.
Merci belle journée
beaucoup.
À vous. Au revoir.
On parlait de la disparition de végétaux. On va revenir à nos, pas nos moutons, mais à nos champignons avec vous, Gaëlle. Et comment ils se reproduisent, les champignons, vu qu'ils sont ni animaux, ni végétaux? Comment ça se passe?
Alors, on va dire ça assez facile. C'est que quand on cueille un champignon, qu'on cueille une morille, par exemple, vu que ça va venir, on cueille le fruit du champignon. C'est-à-dire que sur cette morille, il y a plein de spores qui sont produites. Donc les spores, c'est des petites graines à champignons qui sont disséminées dans le milieu. Elles ne vont pas fraterrir sur le sol et puis elles vont créer un mycélium dans le sol. Et puis après, il y a un autre champignon, donc une autre morille à côté de la même espèce, qui va aussi créer son champignon. Puis le mycélium de ces deux champignons va se retrouver dans le sol. Il va se marier, en fait. Et après, plus tard, ça pourra redonner de nouveau une morille. Voilà. Donc le champignon, il se produit par spore.
Gaëlle, pour clore un peu le sujet sur les écosystèmes, est-ce qu'il pourrait fonctionner, est-ce qu'il serait viable sans les champignons, cet écosystème?
Alors, comme j'ai dit, comme ils recyclent la matière, en fait, donc ils ont vraiment un rôle important. Et puis, sans champignons, en fait, on aurait des kilomètres de litière sur nous. Donc, en fait, les plantes seraient à court de sels minéraux. Et même sans champignons, en fait, il n'y aurait même pas eu de plantes sur Terre. Parce qu'il y a 45 millions d'années, quand les plantes ont colonisé la terre ferme, ils l'ont fait grâce aux champignons. Donc, en fait, les champignons, sans champignons, je pense qu'il n'y aurait pas de vie.
Et ça serait bien dommage. Merci Gaëlle, on va se retrouver dans quelques minutes et nous parlerons d'un des champignons les plus appréciés, mais aussi assez difficile à trouver, hein, la morille. Oui, très bon, la morille.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, les jardinières vous parlent de champignons jusqu'à 8h. Et puis un des champignons rois du printemps, je devrais plutôt dire reine du printemps, c'est la morille. On ne pouvait donc pas faire une émission spéciale champignons sans la mettre à l'honneur. Alors Gaëlle, à part son goût excellent, c'est quoi la particularité des morilles?
C'est que sa durée de récolte, on va dire, elle est courte. Et donc, dès que les températures de la nuit sont positives, elle commence à pousser. Et après, sitôt qu'il fait trop chaud, on va dire 10 degrés, 10-15 degrés, elle arrête de croître.
Gaëlle, question peut-être un peu bête, mais est-ce qu'il existe plusieurs espèces de morilles, hein?
Alors oui, et puis ça m'a demandé de la lecture parce que je ne savais pas exactement. Et en fait, les morilles, c'est un peu un gros bazar parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, bien sûr. » Puis en fait, la génétique, elle est arrivée par là-dessus, puis on a fait des tests. Et puis en fait, il n'y a pas énormément d'espèces de morilles. En gros, on va dire qu'il y a trois grands groupes de morilles. Il y a la morille jaune, la morille noire et la morille rousse. Et chez nous, en fait, on a 4 espèces de morilles noires et 2 espèces de morilles jaunes, dont la Morchella esculenta, qui est la belle morille qu'on connaît. Et l'autre très connue, c'est la Morchella conica, qui est une morille noire et qui est plus petite et puis en forme un peu de cône.
C'est bientôt le début de la saison pour les morilles. Alors, quand est-ce qu'on peut débuter les balades en forêt pour les trouver? Et puis où?
Alors, attention. Hein. Donc en fait, la morue, elle a un cycle de vie qui est particulier. Ça veut dire qu'elle a une phase où elle va se mettre en symbiose avec un arbre. Donc elle peut se mettre sous des conifères, elle peut se mettre sous des feuillus. Donc ce n'est pas l'arbre en général qui va l'embêter. C'est plutôt en fait les conditions. Elle, on va souvent la trouver à fleur de rocher. Enfin, quand il y a des rochers, quand il y a une terre qui est faible, donc il y a peu de terre. Donc c'est souvent là qu'on les trouve. Et sinon, il y a un autre cycle de vie, c'est que pendant qu'elle est en symbiose avec un arbre, elle peut faire des petites sclérotes, donc des petites structures de résistance. Et puis, si maintenant le sol devient être perturbé, en fait, eh ben, ça va, entre guillemets, tuer la symbiose, mais ça va faire partir ces sclérotes. Et donc, c'est pour ça que quand on met des copeaux de bois dans un endroit, d'un coup, pouf, on a plein de morilles qui sortent parce que, justement, ben, elle est partie à partir de ces sclérotes. Quand, ben, en fait, elle se sent en danger, ben, elle fait partir pour être sûre de pouvoir disséminer plus loin et puis continuer à vivre.
Gaëlle, vous l'avez dit il y a quelques instants, alors la période de récolte de la morue est très courte, c'est ce qui la rend si rare?
Oui, c'est ce qui la rend si rare. Et puis après, ben, c'est clair qu'il y a des gens qui ont essayé de la cultiver et c'est très difficile à cultiver parce que ben, le rendement n'est pas top. Donc ça coûte plus cher d'investir pour la cultiver que ce qu'elle rapporte. Mais je crois qu'en Suisse, il y a quelqu'un qui a essayé de la cultiver dans le canton de Vaud qui a essayé.
Donne-nous l'adresse, on va aller lui piquer ses morilles.
Ah, vous allez la trouver.
on va prendre une histoire vraie, par exemple. L'année passée, on a trouvé des morilles. On a
c'est
trouvé
l'instant vie de Mylène.
Un morille, voilà. Mais j'aimerais savoir si j'y retourne cette année, est-ce que je serai à nouveau chanceuse? Est-ce que les morilles repoussent au même endroit? Est-ce que le
mycélium continue? Alors justement, après, il y a les conditions environnementales aussi qui font s'il y a une bonne humidité, s'il y a une bonne température. Si c'est justement ces morilles qui poussent dans les copeaux de bois, ben là, c'est une année, deux ans, pas plus. Par contre, si c'est en forêt normale ou dans un pâturage boisé, ben là, vous pouvez y aller chaque année. Vous aurez c'est les veaux qui ont un morille et chaque année, vous allez les avoir si les conditions environnementales sont là.
Merci beaucoup Gaëlle, les jardinières sont encore avec vous pendant une dizaine de minutes, on va encore tenter de faire pousser des champignons chez soi, tiens, c'est dans quelques instants.
7h, 8h, les jardinières.
Dernière partie des jardinières, nous sommes toujours en compagnie de Gaëlle Mona, contrôleuse de champignons dans le canton de Neuchâtel. Si vous nous rejoignez maintenant, sachez qu'on a parlé champignons depuis 7h. Alors si on trouve des champignons en forêt, il est aussi possible de les faire pousser directement chez soi. Il existe des kits qu'on trouve facilement dans les commerces. Mais Gaëlle, est-ce qu'on peut faire pousser des champignons sans kit, par exemple?
Alors, oui, il existe une manière, c'est avec notamment la pleurote en forme d'huître, où on pourrait l'inoculer sur une bûche de bois. Donc ça, on peut trouver les inoculums sur Internet. Et puis après, on a une préparation à faire. Et puis après, on peut planter la bûche dans notre jardin. Et puis après, il y a des pleurotes qui peuvent sortir.
On trouve des kits à planter pour une trentaine de francs environ pour faire pousser justement les pleurotes. Mais est-ce que c'est une bonne affaire?
Ouais, c'est pour s'amuser, on va dire, plutôt. Parce que le rendement n'est pas top. Je veux dire, on peut avoir une, deux productions, mais pas plus. Après, ben, on jette le kit. Mais par contre, c'est rigolo de faire pousser
avec les enfants, par exemple.
Voilà, exactement. Puis des pleurotes en forme d'huître dans son salon, c'est rigolo.
Les kits proposent, ben, vous l'avez dit, des pleurotes ou des champignons de Paris. On a parlé tout à l'heure des morilles, que c'est difficile à reproduire. On pourrait imaginer un kit à planter avec des bolets ou des chanterelles, des champignons intéressants.
Alors oui, des champignons intéressants, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut l'arbre avec. Donc,
c'est plus difficile
à avoir dans la cuisine.
Voilà. Par contre, ben, tout ce qui est par exemple la truffe, il y a justement des trufficultures où on plante l'arbre et puis après, ben, on peut récolter des truffes.
Est-ce que sur ces champignons qui poussent dans les kits, est-ce qu'ils sont tous comestibles ou est-ce qu'il faut quand même un petit peu se méfier?
Oh, je pense qu'ils sont tous comestibles. Après, dans les kits, on peut trouver du shiitake, du champignon de Paris, justement des pleurotes. Donc, c'est des champignons assez communs. Et puis, c'est pas n'importe quoi qui va pousser. Par contre, il peut y avoir des moisissures ou des bactéries qui se développent. Donc, c'est clair que si vous voyez votre champignon qui a une drôle de couleur, ben, vous le consommez pas.
Ou on vient vous voir.
Voilà.
Gaëlle, en tant que contrôleuse de champignons, le kit à faire pousser ses champignons soi-même, c'est un cadeau que vous feriez ou vous recommanderiez?
Alors, nous, on me l'a souvent offert, justement. Mais après, bah voilà, effectivement, si on joue chercher un cadeau original, bah pourquoi pas?
Merci beaucoup Gaëlle. En tout cas, encore une dernière fois, on vous remercie pour tous ces précieux conseils et toutes ces petites astuces pour nous parler champignons ce matin. Et je crois que Mylène, on va directement tracer en direction de la fin de notre émission.
Bah oui, parce qu'il est déjà presque l'heure. Juste le temps de demander à Gaëlle, qu'est-ce qui vous passionne tant dans les champignons? Parce que c'est pas courant, cette passion quand même.
Bah en fait, c'est un petit virus qui m'a piqué à la fin de mes études de l'université. Et puis, je trouve que c'est un monde tellement passionnant. Il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à découvrir. Ils sont partout, les champignons, ils nous entourent. Ils font beaucoup de choses pour nous, hein, dans l'alimentation, dans beaucoup de domaines. Et puis en fait, c'est ça. Puis cette balade en forêt, puis de voir ces champignons, j'adore.
Merci beaucoup Gaëlle, en tout cas pour votre présence ce matin. Et puis vous revenez quand vous voulez chez les jardinières. On rappelle tout de même que vous êtes contrôleuse de champignons dans le canton de Neuchâtel et que l'intégralité de vos conseils, on les retrouvera en podcast en cours de matinée sur notre site. On vous souhaite un bon week-end et on vous remercie encore de votre venue.
Merci Gaëlle. Les jardinières reviennent dans leur version originale la semaine prochaine, dès 7h. Oui. Et nous serons en compagnie de Katiou Racine qui répondra à vos questions jardinage. D'ailleurs, les questions qui sont arrivées cette semaine et ce week-end seront prises en compte samedi prochain et en priorité. Vous pouvez continuer à poser vos questions via le formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émission questions aux jardinières ou par SMS, vous tapez jardin un espace suivi de votre question et vous nous envoyez ce message au 939. Bon week-end Raphaël.
Bon week-end Mylène.
Et bon week-end à vous. Amis et amis des végétaux.
7h, 8h, les jardinières.